Voilà, donc écoutez, c'est un plaisir d'être de retour. Vous savez que nous étions absents pendant quelques semaines, mon épouse et moi. Et déjà, donc, j'ai donné un rapport de notre voyage la semaine dernière. Mais donc aujourd'hui, on rattaque pour l'été. Alors, avec l'été qui est ici, avec les nombreux va-et-vient que nous allons connaître du fait que les uns et les autres prendront les vacances, il m'a semblé bon cet été d'utiliser les cultes pour tout simplement réviser nos bases théologiques. De temps en temps, il faut simplement s'arrêter, réviser le béaba. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Il est toujours bon de réviser les fondements de notre foi. Donc, d'ici fin août, je vais moi-même donner 6 messages, des messages que vous avez probablement déjà entendus d'une manière ou une autre, certaines des illustrations, rien n'est nouveau, d'accord? Ça fait quand même pas mal d'années qu'on est tous ensemble. Mais j'espère que ce sera vraiment une révision pour des choses que nous connaissons déjà, mais je pense des messages importants et fondamentaux. Alors je vais vous donner les titres de ces messages, d'accord? Aujourd'hui, le premier, ça va être « Qu'est-ce que la Bible ?» On peut pas faire plus basique. Ensuite, « Qui est Dieu ?» Ensuite, « Qui est l'homme ?» Ensuite, « Qui est Jésus-Christ ?» Ensuite, « Qui est le Saint-Esprit ?» Et ensuite, « Qu'est-ce que l'Église ?» D'accord? Vraiment les fondements. Et puis, au plein milieu de cette série, les 24-31 juillet et le 7 août, lors de mon absence, nous aurons le privilège d'entendre nos trois mousquetaires. C'est comme ça que je me réfère à eux maintenant. David, Nabil et Fabien. D'accord? Donc, trois hommes, trois jeunes hommes de notre église qui vont, eux, apporter des messages aussi. Et chacun leur tour. Et avant mon retour pour finir la série d'été. Et cela avant septembre, lorsque je vais commencer, Dieu voulant, le livre de la Genèse. Alors là, je me réjouis à fond, d'accord? Le livre de la Genèse, donc à partir de septembre. Donc cet été, ça va être un été enthousiasmant, je pense, et que Dieu bénisse vraiment sa parole. Donc aujourd'hui, pour commencer cette mini-série, j'ai intitulé mon message « Qu'est-ce que la Bible ?» Parlons donc de ce merveilleux livre qui s'appelle la Bible. La Bible vient du grec ancien « ta biblia » qui veut simplement dire « livre ». Donc parlons un petit peu ce matin de ce livre. Et avant de le faire, je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire qui est racontée d'un certain Vince Lombardi, qui était un célèbre entraîneur de football américain des Greenback Packers, qui chaque année est appelé à entraîner la nouvelle équipe pour l'année en cours. Alors les joueurs devant lui sont bien sûr des joueurs professionnels, des hommes énormes, peut-être vous avez déjà vu des footballeurs américains, des hommes qui ont joué le football toute leur vie, depuis leur plus jeune âge. Mais cet entraîneur-là a toujours une politique bien précise. Pour être le meilleur, dit-il, il faut toujours revoir les fondements du jeu chaque année, et cela d'une manière régulière. De ce fait, cet entraîneur est devenu célèbre aux États-Unis parce qu'il commençait chaque année ses entraînements de la même manière. Il soulevait un ballon d'un football américain et il disait ceci, « Messieurs, ceci est un ballon de football américain ». Et pourtant, c'était des pros. Eh bien, aujourd'hui, quelque part, je m'inspire de cet entraîneur. J'aimerais brièvement revoir les fondements de base de la foi chrétienne. Alors, vous êtes, je pense, si vous connaissez Christ depuis un certain temps, j'ai envie de vous appeler des professionnels. Nous sommes des professionnels, quelque part, du christianisme. Vous êtes, pour la plupart, chrétiens de plus ou moins longue date. Mais comme cet entraîneur, j'aimerais ce matin revoir ses bases fondamentales. Donc, messieurs, dames, voici une Bible. Voici une Bible. Voici une Bible. Ceci est une Bible. Mes amis, voici la base fondamentale du christianisme quelque part. Alors la Bible est un livre étonnant. Vous le savez, petite révision, l'Ancien Testament contient 39 chapitres. Le premier livre de l'Ancien Testament, c'est la Genèse. Le dernier livre de l'Ancien Testament, c'est Malachi. Moi, je l'appelle le prophète italien. Malachi, d'accord ? Le Nouveau Testament contient combien de chapitres ? 27. Le premier livre du Nouveau Testament ? Matthieu. Le dernier ? Apocalypse. La Bible contient 60 livres en tout. Alors, plus difficile, combien de chapitres y a-t-il dans l'Ancien Testament ? 929. Combien de chapitres dans le Nouveau Testament ? 260. Combien de chapitres en tout ? 1189. Ou plus difficile, combien de versets y a-t-il dans la Bible ? 41 173. Combien de mots y a-t-il dans la Bible ? Ouf. Bon, alors vous allez me dire, ouais, ça dépend en grec ou en français ou en anglais ou en togolais. D'accord ? Ok. Alors, j'en sais rien, je pense que c'est en grec. 774 746 mots. Combien, tenez-vous bien, de lettres dans la Bible ? 3 566 480. Le chapitre le plus court, le psaume 117. Le chapitre le plus long, le psaume 119. Le verset le plus long, Esdras, chapitre 8, verset 9. Et le verset le plus court, là vous le connaissez, Jean 11, 35, qui dit « Jésus pleura ». Alors ceci est intéressant. À la vitesse d'une lecture publique, la Bible entière peut être lue en 70 heures et 40 minutes. Cela prend 52 heures et 20 minutes pour lire l'Ancien Testament et 18 heures et 20 minutes pour lire le Nouveau Testament. La Bible, dans l'original, n'avait pas de division. C'est l'archevêque de Canterbury, Stephen Langton, qui, au XIIe siècle, a donné le premier découpage de la Bible. Et c'est en 1561 qu'un peintre français découpa le Nouveau Testament dans la forme que nous l'avons actuellement. Alors voici quelques informations de base sur la Bible. Mais vous savez que la Bible est vraiment un prodige pour plusieurs raisons. Un prodige étonnant. Par exemple, la Bible est un prodige de par sa formation. La manière qu'elle fut compilée est un des mystères de tous les temps. 40 auteurs qui avaient 19 occupations, qui ont écrit sur une période de 15 siècles depuis 11 endroits géographiques différents. En plus, ils ont écrit en utilisant plus de 10 styles littéraires différents, allant du récit historique à la prophétie, à la biographie, au droit, à la poésie, au proverbe, à la doctrine, ainsi que par des paraboles. Ceci dit, la Bible, malgré toutes ces choses, est une unité parfaite sans aucune contradiction. La Bible est aussi un prodige parce qu'elle a passé le test de l'âge. La Bible est un des livres les plus anciens de tous les temps, mais la Bible est encore aujourd'hui, en 2016, écoutez bien, le livre le plus vendu au monde. Il n'y a pas de livre qui est plus vendu au monde que la Bible, encore aujourd'hui. C'est quand même génial. Mais oui, la Bible continue d'être le best-seller de tous les temps. En ce qui concerne sa circulation, bon, ce sont des statistiques un peu vieilles. Mr. Pickering a dit qu'il y a 1958, par le British Foreign Bible Society, pour répondre à la demande de la Bible, elle était obligée à l'époque d'imprimer une Bible toutes les 3 secondes, jour et nuit, 22 copies chaque minute, jour et nuit, 1369 copies chaque jour et nuit, 32 876 copies chaque jour de l'année, qui fait 11 999 740 Bibles par an, juste pour cette société-là. Aujourd'hui, il y aurait dans le monde plus de 3, voire 4 milliards de Bibles. Plus de la moitié du monde a une Bible dans sa langue, traduite en 1659 langues, comparée à 222 langues pour ce que Lénine a écrit. La Bible est un prodige, de plus parce que c'est le seul livre qui est réellement lu par toutes les classes sociales de personnes. Imaginez, la Bible Elle est pour tout le monde. Et moi, c'est ce que j'aime avec notre Église. On a plus de 42 nationalités. Et pourtant, quelle que soit votre nationalité, votre arrière-plan géographique ou culturel, eh bien, elle vous parle de la même manière. La Bible, elle est vraiment pour tout le monde. Pauvre, riche, blanc, noir, asiatique, africain, européen, américain, tout le monde. C'est super. Et ça, je dis souvent aux gens, c'est ce que j'aime avec une Église internationale. Je ne peux pas prêcher la culture. Non. Si je prêche la culture, vous allez me virer. Mais si je prêche la parole de Dieu, vous allez me dire « Amen », parce que vous allez la comprendre. Très important. Ça, je pense, c'est une signature, j'espère, par la grâce de Dieu, et prier pour notre Église, qu'on soit toujours, toujours, toujours biblique et rien d'autre. La Bible est un prodige. De par son langage, la Bible fut écrite pour la plupart par des hommes non éduqués, mais reste pourtant un des livres les plus importants du point de vue littéraire. C'est étonnant. La Bible est aussi un prodige de par sa préservation. La Bible a été un des livres les plus haïs au monde, mais continue à exister et de se répandre de plus en plus autour du monde. L'histoire est racontée d'une personne qui visitait un forgeron. Il remarqua que d'un côté de son atelier, il y avait un grand tas de vieux marteaux usés, tordus et abandonnés, mais qu'il n'y avait qu'une enclume. Le visiteur lui demanda « Combien de fois remplissez-vous l'enclume ?» « Jamais, lui répondit le forgeron, c'est l'enclume qui use les marteaux. Ben, » tel est vrai avec la parole de Dieu. Les marteaux de la persécution, du ridicule, de la critique, du libéralisme, de l'athéisme ont pendant les siècles martelé lourdement l'enclume divine, mais sans victoire. Amen. Les voilà dans un tas, dans un coin rouillé et mort, pendant que la puissante enclume des Écritures se tient incapable, incassable, même pas bouger. La parole de Dieu est solide, mes amis. Elle est solide. La Bible est aussi un prodige par sa fiabilité archéologique. Le célèbre J.O. Kinnaman a dit, je cite, « Des centaines de milliers d'artefacts découverts par les archéologues, parmi les centaines de milliers d'artefacts découverts par les archéologues, aucun n'a jamais été découvert qui contredit ou qui refute ni même un mot, une phrase, ni même un paragraphe de la Bible, mais ces découvertes confirment la fiabilité du récit biblique. » Il y a des magazines qui s'appellent, qu'on peut commander, l'archéologie biblique, c'est super, parce qu'ils continuent à découvrir des trucs archéologiques pour qu'ils confirment l'historicité de la Bible. Moi, je me rappelle que je suis allé à Berlin il y a des années en arrière. Je suis allé dans le musée, je ne me rappelle plus du nom du musée, mais il y avait une section dans le musée des Hittites. Est-ce que quelqu'un se rappelle du musée duquel je... Le musée, je l'ai au bout de la langue, je ne me rappelle plus. Bref. Et les Hittites, pendant des années, des siècles, ils se sont dit, mais là, c'est mentionné dans la Bible, mais ça n'a jamais existé, les Hittites. Donc, il y a une erreur archéologique. Mais aujourd'hui, ils ont trouvé non seulement là où étaient les Hittites, mais il y a toute une section dans ce musée qui s'appelle les Hittites. Et je suis rentré là-dedans, je me suis dit, mais c'est génial. Si vous pensez qu'il y a un truc qui n'a pas encore été découvert, hein, par exemple, ils disent, voilà, pour l'Exode avec Moïse, il n'y avait jamais rien de découvert. Attendons. Attendez, vous verrez. Ce sera un jour découvert, il y aura des preuves comme quoi l'Exode a vraiment existé de manière archéologique. Il faut juste attendre. Les Hittites, c'est un exemple époustouflant de cette réalité. Et que de dire de son influence dans le monde ? Son influence universelle sur la civilisation. La civilisation occidentale a été fondée pleinement sur la Bible et son enseignement. Ben oui, le calendrier. On a regardé un reportage, Meg et moi, l'autre soir, sur la Révolution française. Et Robespierre voulait à un moment donné éliminer de la France l'Église et surtout le dimanche. Ils se sont dit, ils ont conclu que c'est l'Église et la religion qui a créé tous les maux en France. Et donc, il a essayé d'enlever le dimanche en créant une semaine de 10 jours au lieu de 7 jours. Pour que le dimanche n'existe plus. Bien sûr, c'était une catastrophe et on est revenu sur le calendrier d'origine. C'est intéressant de voir que le calendrier du monde, la plupart des jours fériés, ont des rapports bibliques. Chaque fois que vous avez un livre et vous regardez la date de son quand il a été imprimé, c'est la naissance de Jésus, c'est quand même marrant. Est-ce qu'il a influencé le monde, Jésus? Ça, vous pouvez dire qu'il a influencé le monde. C'était la Bible qui a mis une fin au cannibalisme des îles britanniques. L'influence littéraire. Combien d'œuvres ont été influencées par la Bible? Et quand le dire de l'art, allez vous promener dans le Louvre, regardez l'art qui a été influencé par la Bible. Et que dire de la musique? Bach, Mendelssohn, Brahms, Beethoven, Handel, Haydn, je les cite comme si je les connais, je ne les connais pas trop, mais je sais qu'ils ont beaucoup été influencés par la Bible. Amen, Flavius? Amen, ben voilà, donc lui il sait, si moi je ne sais pas, vous allez lui demander, d'accord? Et que le dire de la législation juridique? La plupart des lois occidentales sont enracinées dans la loi des 10 commandements qui décrivent les droits de l'homme. Et vous savez quoi, mes amis, la Bible est un prodige encore. Parce que le message de la Bible transforme les hommes. Écoutez, franchement, je vous pose une question. Pourquoi est-ce que tous les dimanches, vous sacrifiez du sommeil précieux pour venir ici écouter quelqu'un parler 45 minutes? Ah mais franchement, vous êtes fous. Et les gens autour de vous disent, mais t'es malade, tu pourrais dormir. Pourquoi est-ce que vous venez? Je vais vous dire pourquoi vous aimez. Vous venez pas pour m'écouter moi. Vous venez parce que vous aimez Dieu, vous aimez venir avec d'autres chrétiens, l'adorer et le louer, et vous aimez parce que vous voulez entendre la parole de Dieu prêchée, parce que vous savez que la parole de Dieu, c'est ce qui vous donne la vie. Amen. Votre vie a été transformée par le message contenu dans la parole de Dieu, le message que Jésus-Christ, mort et ressuscité, peut vous transformer. Et c'est ça qui vous a transformé. C'est pour ça que Monsieur de Ranty lisait la Bible chaque jour pendant 3 heures à genoux avec sa tête couverte. C'est pour ça que la comtesse de Suffolk en Angleterre, pendant les dernières 7 années de sa vie, lisait sa Bible 2 fois par an. Martin Luther disait « J'étudie la Bible comme on récolte les pommes d'un pommier. En premier, je secoue tout l'arbre et les pommes les plus mûres tombent. Je lis la Bible comme si je secouais l'arbre entier. Puis, je secoue chaque branche, j'étudie chaque livre un après l'autre. Puis, je secoue chaque brindille où j'étudie avec attention chaque paragraphe, chaque phrase et chaque mot pour comprendre leur sens exact. » Pourquoi est-ce qu'on prend tellement de temps à étudier ce livre? Pourquoi? Parce que ce livre est le livre de Dieu. Amen. Amen. Mesdames et messieurs, ceci est une Bible. Ceci est une Bible. Alors, avertissement. Avertissement. Écoutez très bien ce que je vais dire. Ce livre est dangereux. Il devrait avoir sur cette première page de chaque Bible cet avertissement. C'est une idée que je lance. Voici l'avertissement. Ce livre crée une accoutumance. L'usage régulier de ce livre crée une perte d'anxiété, une perte d'appétit pour le mensonge, la tricherie, le vol, la haine. Les symptômes de son usage sont les suivants. Une augmentation de l'amour, de la paix, de la joie et de la compassion. Soyez avertis. C'est un livre étonnant, vous ne trouvez pas? Mais pourquoi? Pourquoi ce livre, qui peut être lu en 70 heures et 20 minutes, est-il ainsi? Pourquoi tant de personnes tout au long de l'histoire ont-ils affirmé haut et fort et si souvent au péril de leur vie leur attachement à ce livre? Allez au musée de la Réforme. C'est vrai, monsieur. On va réorganiser un tour de la Réforme, un de ces quatre. Mais la chambre des persécutions m'a toujours fasciné. Il y a une petite nouvelle Bible. Il y a une chambre où on voit les gens, comment ils ont été persécutés et ce qu'ils faisaient pour cacher les Bibles. Il y a une toute nouvelle petite Bible qui est là depuis quelques mois. Ça s'appelle une Bible de chignon. C'est une toute petite Bible que les femmes pouvaient cacher dans leur chignon. Parce qu'à l'époque, dans les années 1600, 1700, 1800, enfin surtout 1600, 1700, si tu avais une Bible, tu pouvais être tué pour possession de la Bible. Et donc, ils trouvaient des moyens pour la cacher. Et là, la petite Bible du chignon, ils ont les cheveux avec cette petite Bible du chignon-là. Ils montrent comment ils cachaient les Bibles aussi sous les feux de cheminée. Enfin, ils avaient des moyens incroyables pour cacher les Bibles. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils étaient prêts à garder et cacher les Bibles au prix de leur vie, ces gens-là? Pourquoi? Eh bien, parce que ces gens ont réalisé que la Bible était de Dieu et pouvait transformer des vies. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris que la Bible n'est pas juste un livre. Ils ont compris que la Bible, en fait, vient de Dieu. C'est un livre divin. Ce n'est pas un livre comme n'importe quel autre livre. La Bible, mes amis, est un message donné par Dieu lui-même pour l'humanité tout entière, en tout lieu et en tout temps. Alors, pour vous le montrer, je vous invite à prendre vos Bibles au texte le plus clair sur son inspiration qui se trouve dans 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Ce verset est fabuleux. Enfin, ces deux versets sont fabuleux parce qu'ils résument en condensé la puissance et le prodige de ce livre, la Bible. Regardez, 2 Timothée 3, 16. Paul écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Alors là, mes amis, nous avons le cœur de l'inspiration de la parole de Dieu. Alors, peut-être un mot sur le contexte. L'auteur de ces versets et de l'épître qui les contient est l'apôtre Paul, qui était missionnaire. Il était, au moment de l'écriture de cet épître, en prison à Rome. Il est en train d'écrire à son disciple Timothée, qui était un jeune homme et collègue de travail de Paul, que Paul avait laissé à Éphèse pour aider cette église. Il pensait que sa mort était imminente, donc il demande à Timothée de venir à Rome. Et sachant que Timothée avait une tendance au découragement face aux pressions du ministère, il veut encourager Timothée à persévérer fidèlement dans cette voie de fidélité au Seigneur et dans son ministère pastoral à Éphèse. Alors, comment Paul, c'est ça la question que j'aimerais poser, comment Paul fait-il pour encourager un pasteur découragé ? C'est intéressant. Petite parenthèse, les pasteurs peuvent venir découragés. Ils sont comme tout le monde, d'accord ? Ils sont humains. Il peut voir des bons jours et des mauvais jours. Voilà, Timothée a un mauvais jour, une mauvaise phase dans sa vie. Il est découragé, perd de zèle, perd de un peu tout. Et alors Paul veut l'encourager. Et comment fait-il pour le faire ? Eh bien, Paul revient aux bases. Paul le rappelle, avant toute autre chose, de se rattacher aux saintes Écritures et à la parole de Dieu. Regardez le verset 14. « Toi, » Paul dit à Timothée, « Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu. » Donc on apprend ici que Timothée a eu une enfance privilégiée, élevé dans une famille chrétienne où on lui avait enseigné les Écritures. Dans chapitre 1, 3 à 5, on sait que sa mère Eunice et Aïeul Loïs, les deux étaient des ferventes croyantes. On sait que Timothée s'était refroidi parce qu'il lui dit « Demeure, demeure dans les choses que tu as apprises. Arrête-toi, reste sur cet endroit, maintiens le cap, revas là où tu sais que tu dois aller. » Oui, c'est un petit peu égaré, il lui dit « Reviens, reviens. » Et on sait qu'il avait été, Timothée, un disciple fidèle des Écritures dans le passé, lointain ou proche, on ne sait pas trop. On sait qu'il les avait apprises, qu'il les avait reconnues comme certaines, c'est ce qu'on vient de lire. Il honorait sa mère, de qui il les avait apprises. Il connaissait les saintes lettres depuis son enfance. Et il savait aussi que les Écritures pouvaient donner sagesse et salut. Donc voilà, c'est quelqu'un qui avait grandi dans l'Église, il connaissait tout. Mais voilà, un moment de refroidissement, ça peut arriver. Et Paul, allez, allez Timothée, ressaisis-toi et reviens. Peut-être vous avez déjà vous-même connu cela. Ça peut arriver. Et ensuite, tac, il vient au verset 16 et au verset 17. Et là, on voit, et c'est ce que j'aimerais développer très rapidement ce matin, cinq vérités éternelles sur la parole de Dieu, sur la Bible. Cinq vérités. Regardez, c'est absolument époustouflant. Premièrement, voyons la nature de la Bible. La nature de la Bible. Au verset 16, il dit « Toute écriture est inspirée de Dieu. » Toute écriture est inspirée de Dieu. Le mot « écriture » ici parle de saintes lettres. Là, il fait une référence, et c'est très important ce que je veux dire, à l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament n'existait pas encore. Donc là, il fait référence tout simplement à l'Ancien Testament. Il dit que toute, sans exception, l'Ancien Testament, donc de Genèse à Malachie, est inspiré de Dieu. Inspiré de Dieu. En grec, c'est théopneustos. C'est un mot très connu dans les milieux académiques. On utilise toujours ce mot. Il est très intéressant. Il est divisé entre deux. Théo, qui veut dire Dieu, et pneu, soufflé. Duquel on a, par exemple, pneumatique. Vous avez des pneus sur votre vélo, sur votre moto, sur votre voiture. Ben voilà. Pneu, ça veut dire souffler. Vous mettez de l'air dans un pneu. Fou. Voilà. L'écriture a été fou. Soufflée, pneumatisée par Dieu. Littéralement, l'Ancien Testament a été soufflé par Dieu. C'est intéressant, dans Genèse 2, 7, il est dit ceci, je cite, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. C'est intéressant, de la même manière que Dieu souffla la vie dans Adam, il souffla la parole de Dieu. Le psaume 33, 6, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toutes leurs armées par le souffle de sa bouche. Waouh ! L'univers a été soufflé par Dieu, par sa parole qui crée. Donc, 2 Timothée 3, 16 nous enseigne que les Écritures ont été soufflées par Dieu lui-même. Dans Matthieu 5, 18, Jésus dit ceci, « Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à que tout soit arrivé. » Jésus dit, « Chaque lettre dans l'Ancien Testament a été soufflée par Dieu. » Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Et dans 1 Timothée 5, 18, très intéressant, petit texte assez intéressant, ben très intéressant. Paul dit ceci, 1 Timothée 5, 18, dit au verset 17, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent la prédication et l'enseignement. Car, voici ce qu'il dit, l'Écriture dit, donc il est en train de citer l'Écriture dit, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Et là, Paul cite deux textes, Deutéronome 25, 4 et Matthieu 10, 10. Elle les appelle l'Écriture. Donc Jésus affirme que Matthieu, ce qu'il écrit déjà dans le Nouveau Testament, est donc Écriture. Et si nous allons maintenant dans 2 Pierre 3, 16, c'est la Bible, il y a des choses humoristiques parfois dedans. Là, c'est un petit verset humoristique, je trouve. Pierre écrit ceci au verset 15 de 2 Pierre 3. « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul nous l'a écrit aussi, selon la sagesse qui lui a été donnée. » Donc Pierre écrit 2 Pierre et fait référence à Paul. Verset 16. « C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses. » Donc Pierre parle de Paul qui écrit ses lettres, qui parle de ces choses. Dans lequel il y a des points difficiles à comprendre. Alors ça, j'ai toujours trouvé super. Quand vous lisez Paul et vous dites, j'ai un petit peu de la peine à comprendre, vous êtes en bonne compagnie. Même Pierre avait parfois de la peine à comprendre Paul. D'accord ? C'est quand même intéressant de le dire. Mais ce qu'il dit ensuite, il dit, je relis, verset 16. C'est ce qui se fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affirmées tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Ce qui est intéressant ici, c'est que Pierre appelle ce que Paul a écrit l'Écriture ou les Écritures. Donc, Pierre considère ce que Paul a écrit au même niveau d'inspiration que ce que Jésus a considéré l'Ancien Testament. Donc, c'est un exemple pour montrer que toute la Bible est considérée inspirée par Dieu. Ancien et Nouveau Testament. Comment la Bible a-t-elle été inspirée ? 2 Pierre 1, 20 nous le dit. 2 Pierre 1, 20. Sachez tout d'abord, vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas une volonté d'un homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. La Bible nous dit que les auteurs de la Bible ont été poussés par le Saint-Esprit à écrire ces choses. Voilà pourquoi il n'y a pas de contradiction. Voilà pourquoi il y a une unité parfaite. Voilà pourquoi la parole de Dieu change les vies. Voilà pourquoi elle parle si louablement de Jésus-Christ. Écoutez, mes amis, ce n'est pas juste un livre. Ce n'est pas juste un livre. Deux. L'effet de la Bible. Il faut retourner à 2 Timothée 3,16. L'effet de la Bible. Nous avons vu que la Bible est inspirée de Dieu, soufflée de Dieu. Quel est son effet? Regardez, c'est absolument époustouflant. Toute écriture est inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Première chose que nous apprenons, c'est que la parole de Dieu est utile. Elle est utile. Elle est une chose pratique et indispensable à la vie quotidienne. Les gens dans le monde sont aveugles à cette réalité. La Bible, pour la plupart des gens, c'est un livre moyenâgeux, un livre qui est daté. Mais écoutez, arrêtez mes amis. C'est un livre actuel. Il n'a jamais été plus actuel qu'aujourd'hui. C'est incroyable. Vous parlez de problèmes de mariage, la Bible en parle. Au fait, c'est Dieu qui a inventé le mariage. Problèmes de relations, la Bible en parle. D'employé, d'employeur, la Bible en parle. D'argent, la Bible en parle. La Bible parle de tout. Et ce qui est super, c'est que tout ce qu'elle dit sur tous ces sujets, c'est juste et c'est vrai. Donc c'est pas compliqué quelque part. C'est pas compliqué la Bible. Aïe, 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 aïe. Le psaume 19, 8, regardez. Regardez son utilité. Le psaume 19, 8. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Elle peut restaurer une âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les gens sont déprimés aujourd'hui. Tu veux la joie? Viens à la parole de Dieu. Elle te promet qu'elle va réjouir ton cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Tu as de la difficulté à savoir comment aller dans la vie? Reviens à la parole de Dieu, elle va t'éclairer les yeux pour savoir comment avancer. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont tous vrais, ils sont tous justes. Waouh! Ceci est une Bible. Et tout ce qu'elle contient est juste. Même ce que tu ne comprends pas, c'est juste. C'est rassurant, moi, je trouve. Waouh, c'est vraiment rassurant. Alors, retournons au verset. Utile, premièrement, pour enseigner. Ben voilà, c'est tout simple. La Bible nous enseigne les faits. C'est un nouveau chrétien se convertit à Jésus-Christ, il commence à lire la Bible, ben il ne sait rien, donc il commence à lire et il dit « Ah ouais, ben Jésus, super, moi je ne connaissais pas trop, Saint-Esprit, je ne savais même pas que ça existait. Ah, péché, ah c'est quoi ça? Ah ouais, d'accord, ben je réalise que je suis pécheur. Ah ouais, voilà. » Donc la personne apprend. La Bible t'enseigne les faits fondamentaux de la vie chrétienne. Et en fait, les sujets que nous allons aborder cet été, c'est ce que la Bible nous enseigne. On va regarder la Bible. Voilà. Qui est Dieu, qui est l'homme, qui est Christ, qui est le Saint-Esprit, qu'est-ce que le salut, c'est quoi l'Église. Toutes ces choses, on va les trouver dans la parole de Dieu. Ensuite, pour convaincre. Ah, ça, c'est un mot intéressant. C'est le mot pour dévoiler. Donc, je commence à lire la Bible, j'apprends les trucs. Waouh, super, intéressant, génial, waouh, super. Et tout d'un coup, faf, vous arrivez à Jean 3, par exemple. Bien sûr, peut-être tu es déjà chrétien, peut-être tu n'es pas déjà chrétien, mais tu lis Jean 3, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ah mince! Ah ouais, c'est vrai! Ah ouais, mes œuvres, elles sont mauvaises par rapport à un Dieu saint. Waouh, je suis vraiment pécheur! Mes attitudes, mes paroles, mes pensées, mes actions, mais je suis un nul, franchement, devant Dieu. Bah ouais! Pire, quiconque fait le mal et la lumière, ah ouais, je réalise que j'ai toujours haï Dieu parce que Dieu est saint et je suis pécheur. Et tout d'un coup, tu réalises que la parole de Dieu dévoile ton péché. Alors bien sûr, un non-chrétien qui découvre la parole de Dieu, Dieu lui a dévoilé son péché et il réalise qu'il doit venir à Christ. Mais un chrétien qui connaît Christ, la parole continue à dévoiler son péché qui a déjà été pardonné par Christ. Quand j'étais à New York, j'ai déjà raconté cette histoire, j'avais un appartement où j'étais... J'étais Stuart, J'avais pas beaucoup d'argent, ils payaient pas beaucoup à cette époque-là. Bref, j'ai trouvé un petit appartement à New York complètement crade. Des cafards, il fallait voir les cafards. Il y avait des cafards partout. Alors la nuit, j'avançais pour pas marcher dessus, j'allumais la lumière et tous les cafards, waouh, ils partaient parce qu'ils voulaient, l'obscurité, ils n'aimaient pas la lumière. Voilà ce que la Bible fait, c'est comme une lumière qui s'allume dans votre vie. Oh Seigneur, je suis qu'un cafard, régénéré par Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Et ensuite on corrige, c'est ce que la Bible dit, elle corrige. Le mot veut dire redresser quelque chose. La Bible montre mon péché, elle me montre que Christ est la solution à mon péché, elle me redresse. Moi qui étais menteur, maintenant je ne veux plus mentir. Moi qui volais, je ne veux plus voler. Moi qui trichais, je ne veux plus tricher. Moi qui étais paresseux, je ne veux plus être paresseux. Et c'est comme ça la vie. Moi qui vivais une vie de débauche, je ne veux plus la débauche. Moi qui étais mauvais mari, je ne veux plus être un mauvais mari, je veux être un bon mari. Moi j'étais une mauvaise épouse, maintenant je vais être un bon époux. Et dans tous les domaines de la vie, il nous redresse, il nous redresse, il nous redresse, il nous corrige. C'est pour ça, n'abandonnez jamais la lecture de la Bible. Et 4, pour instruire dans la justice. Pour instruire dans la justice, c'est ce qu'il dit dans le verset 16. Ce qui est conforme à la morale et au devoir. C'est comme un enfant, je suis un enfant et Dieu me conduit dans ce qui est juste, dans ce qui est droit, dans ce qui est parfait. Et ça pendant toute une vie, mes amis, pendant toute une vie. Donc, nous avons vu la nature de la Bible, elle est inspirée de Dieu. L'effet de la Bible, elle nous enseigne, elle nous convainc, elle nous corrige et nous instruit dans la justice. 3, l'objectif de la Bible, verset 17, regardez. « Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Celui qui a reçu Christ comme Sauveur et Seigneur, Jean 1,12, nous dit qu'il est enfant de Dieu. Donc un enfant de Dieu devient un homme de Dieu, il devient accompli. Le mot parle de quelqu'un qui n'est pas arraché. Imaginez, bon c'est pas très beau comme image, mais c'est un mot médical. C'est le contraire de déchiqueter un corps, c'est le contraire. C'est de vraiment maintenir le tout bien ficelé ensemble. Le mot artère est dérivé de ce terme. Une artère joint les membres du corps avec le sang nécessaire pour vivre. Voilà, un homme de Dieu accompli, mature, bien ficelé, tout tourne bien. Tu le vois ou tu la vois, tu dis, ah là, le Seigneur. Est Seigneur dans sa vie. Ça se voit. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait ou qu'elle est parfaite, mais ça veut dire qu'elle règle ses problèmes tout de suite. Voilà, ça c'est la maturité, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. De la même racine, accompli, complet. Il a tout ce dont est nécessaire pour faire de bonnes œuvres. Et bien sûr, ça nous rappelle tout de suite Éphésiens 2.10, n'est-ce pas? Éphésiens 2.10, qui dit ceci, verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous allons pouvoir maintenant accomplir les bonnes œuvres auxquelles nous avons été destinés. Alors quelle est notre lutte ? Le défi, quatrième point, le défi. Le défi, mes amis, vous avez déjà réfléchi à ça, que Dieu nous a donné un livre avec sa parole. Ça implique quoi? Qu'on doit utiliser notre tête, notre intelligence et le lire. Ça, c'est la partie difficile, parce qu'il y a tellement d'autres choses à faire. On est tenté par tellement d'autres choses. Je vous lis quelques versets, 2 Timothée 3,14 et 15. « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, connais les saintes lettres. » Colossiens 3,16, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. 1 Thessaloniciens 6, et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions avec la joie du Saint-Esprit. Il faut la recevoir, l'appliquer. 1 Timothée 4,13, jusqu'à que je vienne, applique-toi à la lecture et à l'exhortation, à l'enseignement. 2 Timothée 2,15, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui disperse droitement la parole de la vérité. Acte 17,11, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinèrent chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Jean 8,51, vérité en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Psaume 119,11, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Wow. Psaume 1,2, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. 2 Timothée 4,2, prêche la parole. Psaume 119,165, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Et il ne leur arrive aucun malheur. Quelle promesse ! Le défi, c'est qu'on doit lire cette Bible. Ah, on a des avantages aujourd'hui. Tu peux même pousser un bouton et l'écouter. C'est pas mal. Même dans ta voiture, dans le tram. Ah, mais quelque part, on n'a aucune excuse aujourd'hui. C'est trop facile. Tu pousses un bouton. T'entends quelqu'un, tu peux avoir une voix d'un homme, d'une femme, avec musique, sans musique, avec... Non mais c'est incroyable ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Et je termine avec ceci, l'importance de la Bible. J'aimerais vous raconter une histoire et je termine avec ceci avant la Sainte-Cène. C'est une histoire qui nous est arrivée il y a des années en arrière. Nous étions en vacances à Cap d'Agde, au sud de la France. Et nous avons été à une étonnante soirée culturelle dans la région de la Camargue. Ça s'appelle Taureau Piscine. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Il faut voir ça pour y croire. Je vous explique. Nous étions plusieurs centaines de personnes dans les arènes de la ville. Et au milieu de l'arène, il y avait une piscine carrée avec de l'eau jusqu'aux genoux environ. Petite piscine. Les spectateurs étaient invités, ceux qui voulaient perdre leur vie bien sûr, à descendre dans l'arène pour un jeu. Le jeu était simple. Il est simple, parce qu'il existe encore, je crois. Un taureau est lâché dans l'arène avec des vraies cornes. Et elles sont très pointues. Si tu arrives à faire traverser le taureau d'un bout de la piscine à l'autre, tu gagnes et tu reçois le prix à l'époque, 8 euros. Mais pour le faire, il faut se mettre entre le taureau et la piscine, provoquer le taureau à charger, courir à toute allure au travers de la piscine, faire que le taureau te suive, puis échapper le taureau qui court bien plus vite que toi avant qu'il t'encorne. Voilà le jeu. Alors il faut dire que le jeu n'est pas fait pour les faiblards. Une vingtaine de jeunes hommes, pendant 2 heures, ont mis leur vie en péril pour gagner 8 euros. Et c'est vrai, je me demandais même si c'était juste qu'on y soit pour garder ça, mais on a quand même regardé. Les enfants étaient avec nous. Plusieurs d'entre eux ont été blessés ce soir-là, dont un gravement. Il s'est fait heurter en plein fouet par un taureau et a dû être sorti de l'arène sur un brancard. Alors à un moment donné, et ça c'est la partie qui m'a vraiment frappé, il y avait un homme très gros qui est descendu et il est rentré dans l'arène. La foule s'est tout de suite inquiétée. L'homme n'était pas du tout en forme, il arrivait à peine bouger. Enfin, là j'exagère peut-être un peu. Mais il ne courait vraiment pas vite. Quand j'ai vu descendre, je me suis dit, ce gars va mourir ce soir. Les enfants étaient là, je me dis, attends, mais est-ce qu'on reste ou on reste pas? On est resté, d'accord? Alors, il faut savoir que pendant toute la soirée, il y avait un meneur de jeu qui parlait dans un micro, écoutez bien, et qui expliquait comment il fallait faire pour gagner. Il expliquait qu'il fallait provoquer le taureau, et aussitôt qu'il cherchait, il fallait courir vite et plonger dans la piscine à plat ventre, et que le taureau passerait par-dessus toi. Alors il disait ça à longueur de soirée, rentrez dans la piscine, couchez-vous, mettez-vous dans l'eau, le taureau passera par-dessus vous. Il le disait, tout le monde l'entendait, mais personne dans l'arène ne faisait ce qu'il disait. Personne. Sauf un homme. Ce soir-là, un homme a écouté ce que disait le meneur de jeu, le gros. Cet homme a compris ce qu'il fallait faire. Il a provoqué le taureau a commencé à le charger, le gros a plongé dans la piscine, pff, le gros splash, et le taureau est passé par-dessus, et il gagnait 8 euros après 8 euros après 8 euros, et personne d'autre n'a compris la technique. C'était incroyable à voir. Pendant que les autres essayaient de fuir le taureau en courant, ben lui, il se plongeait et il gagnait 8 taureaux. Et certains se sont fait blesser. Mes amis, quand j'ai vu ce jeu, je me suis dit, c'est exactement comme dans la vie. Dieu est en train de nous donner les règles du jeu. Voici les règles pour gagner. Or, la plupart des gens ne veulent rien entendre. Et ils se font encorner et encorner et encorner et encorner encore par les problèmes de la vie. C'est vraiment triste. Mes amis, nous avons la clé. Mesdames et messieurs, ceci est une Bible.